Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 8h. Et l'essentiel de l'information de ce samedi, Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Encore un peu de patience pour ceux qui ont des enfants scolarisés. Les vacances, c'est jeudi, mais pour les autres, eh bien ça y est, c'est parti. Journée d'ailleurs classée orange au niveau national par Bison Futé. Wilfried de Villers, on vous retrouve d'ailleurs ce matin pour Europe 1 sur une aire d'autoroute au sud de Paris. Vous êtes proche de Fontainebleau. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du monde?
Oui, il y a pas mal de monde. Le parking de l'aire d'autoroute est quasi rempli depuis une heure. Et on sent que c'est une journée de départ en vacances avec ses coffres sur les toits des voitures, des vélos et des bagages entassés à l'arrière. Et surtout beaucoup de familles, même s'il est encore tôt. Et justement, c'est l'idée, nous explique Déborah. Elle est partie de la frontière belge à 3h15 cette nuit.
On essayait de passer Paris avant 6h du matin. Paris, c'est anxiogène en voiture, on n'a pas l'habitude, nous. Après, c'est plus tranquille.
Et sur cette autoroute A6, l'autoroute du soleil, direction le sud, hein, pour des vacances bien méritées, Alison part en famille avec ses enfants et ses parents.
Depuis le mois de février, j'avais pas eu de vacances, donc là, ça va nous faire un bien fou. Là, on va en Provence, chercher le soleil et surtout la chaleur.
Didier part lui aussi en famille, à deux familles même, avec des amis. Derrière sa voiture, une remorque chargée de deux motos. Et quand on lui demande son projet de vacances...
De profiter de nos motos là, sur place et puis surtout d'éviter de rouler en voiture et de profiter du soleil, du beau temps. Et puis en effet, on a les vélos aussi pour... les balades.
Il espère arriver en fin de journée aux alentours de Perpignan, de claquer la porte de sa voiture et de profiter enfin de ses vacances.
Merci. Merci Wilfried de Villers sur l'autoroute des vacances ce matin pour Europe 1.
Alors c'est agité sur les routes et dans les airs également.
Hein. Oui, attention, hein, si vous prenez l'avion aujourd'hui, il y a une grève en ce moment en cours à Roissy et Marseille. C'est l'aéroport parisien qui est le plus touché avec un vol sur cinq annulé. C'est pire qu'hier. Depuis jeudi, ce sont les pompiers qui ont cessé le travail. Ils réclament de meilleurs salaires. Il n'y a pas de perturbation à Orly, mais des mouvements sont déjà annoncés pour le week-end prochain qui, on le disait, va marquer le début des vacances scolaires. Explication Aurélien Fleureau.
Selon les syndicats, la direction a proposé une augmentation de 4% à compter du 1er juillet, alors que les représentants des salariés ont demandé 6% rétroactif au 1er janvier. Les positions se rapprochent très doucement, mais jusque-là, il n'y a pas d'accord. Les salaires qui ont été baissés pendant la crise sanitaire devraient désormais être rehaussé, estime Daniel Berton, secrétaire général de la CGT du groupe ADP.
Les perspectives sur le trafic sont quand même très très bonnes et on considère qu'aujourd'hui les mesures salariales qui nous ont été imposées ne sont plus justifiées et que effectivement, à la fois pour renouer la confiance entre les salariés et la direction, c'est indispensable de revenir sur cette baisse de salaire que l'on subit et puis effectivement répondre à l'inflation avec des propositions qui permettent aux salariés de faire face l'augmentation du coût de la vie.
Le dialogue social continue, explique la direction, alors que les syndicats ont d'ores et déjà menacé d'un nouveau préavis de grève à partir de vendredi prochain, au moment du premier grand week-end de départ pour les vacances scolaires.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
L'inflation, projet de loi pouvoir d'achat, mais également majorité remaniement à venir. On en parle dans un instant avec mon invité Adrien Quatennens, le député NUPS, la France insoumise du Nord.
Autre question à régler rapidement, celle de la santé. Elisabeth Borne a présenté le plan du gouvernement contre la crise des urgences. Elle a retenu toutes les propositions de la mission Flash sur les urgences, justement, dont cette hausse de 50% pour les gardes des urgentistes. Les libéraux aussi auront le droit à une majoration de 15€ par consultation s'ils accueillent quelqu'un qui ne fait pas partie de leur patientèle pour les inciter à prendre des personnes en soins non programmés.
Lénaïque, on termine avec le Tour de France. C'est parti, premier maillot jaune pour le Belge Yves Lampaert.
Oui, c'était un contre-la-montre dans les rues de Copenhague au Danemark hier et le tout premier à s'élancer hier. Eh bien, c'était un jeune Français, Jérémy Le Cros. Joli cadeau pour son tout premier Tour de France.
Ouais, c'est un très beau cadeau que l'équipe m'a fait. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Donc ouvrir le bal comme ça, lui offrir, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. Le public est vraiment très chaud malgré la pluie. Ça a crié tout le parcours, même si j'avais l'oreillette, mon entraîneur qui m'encourageait beaucoup, la foule prenait parfois le dessus. Donc ouais, non, c'est vraiment juste génial d'avoir autant de monde sur le bord de la route et de pouvoir profiter de tout ça.
Jérémy Le Cros avec Martin Lange pour Europe 1. Et puis d'un mot, les footballeuses françaises qui cartonnent 7-0 contre le Vietnam
7-0.
Hier. Joli match de préparation avant l'Euro en Angleterre dans 10 jours.
Et c'était le journal de Lénaïque Monnier qu'on retrouve avec plaisir à 9h.
À tout à l'heure.
La météo. Valérie Darmon, le programme ?
Eh bien, grand beau temps partout, hein. Rien à signaler aujourd'hui. Tout juste quelques nuages de Brest à Lille et des valeurs contrastées entre 20 à Cherbourg et 35 à Cahors. En Bretagne et en Normandie, il ne fait que 4 à 8 degrés ce matin dans les terres et jusqu'à 12 sur la côte. Et cet après-midi, les valeurs qui vont afficher 18 à 25 en moyenne au nord de la Loire, des Pays de la Loire au Grand Est, en passant par le centre, le bassin parisien, la Bourgogne, la Franche-Comté et puis sur toute la moitié sud en tout cas. Le ciel sera parfaitement bleu.
Merci Valérie Darmon. Une semaine agitée à l'Assemblée, une semaine importante qui arrive. On en parle avec Adrien Quatennens, député NUPS, la France Insoumise. Il est en direct de sa circonscription du Nord. C'est sur Europe 1 et c'est dans un instant. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview politique de ce samedi matin sur Europe 1, 8h08. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
En direct de Lille ce matin, où vous êtes bien sûr député NUPS, la France Insoumise du Nord. Première question, est-ce qu'il faut répondre à la rumeur ?
C'est-à-dire ?
J'explique. Hein. La militante féministe Rokhaya Diallo prétend avoir entendu des femmes de votre parti évoquer le comportement inapproprié d'Éric Coquerel. Il doit répondre dans le week-end par une tribune, il doit clarifier la situation. C'était nécessaire.
Écoutez, ça lui appartient de répondre s'il le souhaite. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas mégoter ou prendre à la légère la question des violences sexistes et sexuelles. C'est pourquoi à la France Insoumise, nous sommes dotés d'une cellule qui organise ce travail d'accueil, d'écoute de la parole des femmes, d'accompagnement et y compris de sanctions politiques pour ce qui nous appartient. Parce que nous ne faisons pas la justice, nous prenons des décisions politiques, mais nous accompagnons les femmes dans leur démarche. Et ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise n'a jamais été saisi de témoignages, de faits, s'agissant d'Éric Coquerel. Donc, nous nous étonnons de voir que c'est au moment où il accède à la présidence de la Commission des Finances que la rumeur, parce que c'est comme ça que vous l'avez cité, et c'est bien ça, circule sur les réseaux sociaux. S'il y a des témoignages précis, ben, il faut qu'on puisse les avoir, mais à ce stade, rien n'a jamais été signalé de cet ordre-là, s'agissant d'Éric Coquerel. Et donc, moi, je dis aussi, attention, parce que ça peut pas être non plus uniquement sur le registre de la rumeur, avec le fait qu'on jette en pâture, comme ça, quelqu'un qui est sommé de se défendre.
Bien évidemment.
Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement créer les conditions, par contre, d'avoir un accueil pour ces femmes et pour accueillir leur parole parce qu'elle est importante, parce qu'il faut les croire quand elles témoignent. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de témoignage et donc il n'y a pas lieu d'aller plus loin.
Et nous lirons dans le week-end la tribune d'Éric Coquerel. Alors ça y est, hein, tous les postes sont pourvus à l'Assemblée nationale, les travaux vont pouvoir débuter. Mais quelle semaine, Adrien Quatennens, quelle image renvoyée finalement par la représentation nationale ? Ça va être ça pendant 5 ans ?
Écoutez, faut être précis, les choses se sont pas mal déroulées dans leur fonctionnement cette semaine. C'est de la politique, ce qui s'est passé à travers, vous l'avez dit, les différentes fonctions, disons, dans l'installation de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu, en tout cas, pour moi, il y a deux choses. D'abord, c'est que dans ces revendications sur la répartition de ses fonctions à l'Assemblée, on voit que la Macronie n'a toujours pas pris acte de sa défaite du 19 juin. Elle se voit toujours majoritaire, alors qu'elle n'a plus la majorité absolue. Et pour permettre, eh bien, de continuer à donner cette illusion de majorité absolue dans la répartition des fonctions à l'Assemblée, elle s'est appuyée incontestablement sur la complicité bienveillante de l'extrême droite et de la droite républicaine.
Il faut bien le dire parce que Adrien Quatennens, vous parlez de deal et votre parti parle de deal alors que les choses avaient été décidées mercredi matin en conférence des présidents de groupe et que finalement les choses ont changé par un député écologiste. Mais le scénario n'était pas prévu comme celui-ci.
Écoutez, faut être très précis. C'est un peu trop technique à mon avis pour intéresser l'ensemble des auditeurs. J'essaie de résumer la situation, mais mercredi matin, il y a une discussion en effet qui se fait entre les présidents de groupe à l'Assemblée et la répartition des fonctions qui étaient proposées ne correspondait pas à la répartition des groupes dans l'Assemblée nationale et à leur poids. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés au vote. Mais ce qu'il y a d'absolument inédit, d'incroyable, c'est que les deux vice-présidences d'extrême droite ont été élus par le concours des députés de la Macronie qui ont voté pour les députés.
Mais qu'est-ce que vous demandez ? Vous avez deux présidences, deux vice-présidences pour NUPS, la France Insoumise. Le RN a deux vice-présidences. Vous avez en plus l'importante, la puissante Commission des Finances. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Écoutez, c'est la question par exemple de la questure, dont vous savez que c'est un poste essentiel à l'Assemblée, parce que c'est une fonction qui permet d'avoir main sur l'organisation de l'Assemblée, sur y compris la question des ressources humaines et du personnel qui y travaille, bref. Et la Macronie revendique toujours 2/3 de cette questure, alors qu'en réalité, elle n'a plus la majorité absolue. Et on a bien vu que pour obtenir cela, elle s'est accordée avec le Rassemblement National, avec la droite républicaine, et elle est allée jusqu'à dire à ses députés de voter pour les candidats d'extrême droite. Oui. Bref, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'il n'était pas question pour eux que la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale puisse occuper ses fonctions à l'Assemblée. Mmh. Et donc on a bien vu un accord global du type « passe-moi le sel, je te passe le poivre » qui s'est joué entre la Macronie et les députés d'extrême droite et de droite. Mais et ça, il faut pouvoir le dire parce que c'est assez inédit. Et quand on voit la tonalité de ce qui a été dit à la tribune par le doyen d'âge d'extrême droite, très franchement, sur l'Algérie française et tout le reste, on peut s'inquiéter de savoir ce que va donner la présidence de l'Assemblée des députés d'extrême droite.
Vous parlez d'un accord global. Il y a eu un vote à la présidentielle, il y a eu un vote aux législatives. Les Français ont envoyé un message, finalement, que toutes les sensibilités soient représentées. Est-ce que c'est le rôle de l'Assemblée nationale de faire respecter... Est-ce que c'est pas le rôle de l'Assemblée de faire respecter finalement cette démocratie ?
Non mais attendez, que toutes les sensibilités soient représentées, c'est un fait. Dire quoi qu'on pense de la présence, à mon avis c'est assez gravissime, mais quoi qu'on pense de la présence de 89 députés d'extrême droite dans notre hémicycle, ils sont légitimes, ils ont été élus, ils ça ne se discute élus. Pas. Ouais. C'est autre chose, en revanche, de combiner avec eux pour l'obtention de postes, comme l'a fait La République En Marche. Voilà. Combiné, et ça, c'est un franchissement de seuil.
Il y a eu des combines, selon vous?
Bah, écoutez, quand vous avez 89 députés RN et que leurs vice-présidents sont élus avec près de 290 voix, ça veut bien dire qu'il y a eu des accords qui ont été passés et qu'on a appelé les députés d'Emmanuel Macron à voter pour le Rassemblement National. Ça mérite d'être très clair. Et ça, c'est un franchissement de seuil, en effet. Et surtout, ça montre que dans cette Assemblée, finalement, la seule force d'opposition, au sens où ça n'est pas une opposition qu'Emmanuel Macron choisirait, eh bien, c'est la nouvelle Union Populaire, puisqu'il s'est agi de lui faire barrage à plusieurs reprises.
Ouais. Adrien Quatennens, député NUPES, La France Insoumise, ce matin sur Europe 1. Quand l'un des vôtres, je pense au jeune député Louis Boyard, refuse de serrer la main à un député RN, est-ce qu'on est encore en campagne? Ou est-ce qu'on est dans une assemblée censée travailler pour les Français et les représenter ?
Bah, surtout que je vois pas en quoi ça fait un sujet d'actualité comme ça a pu le faire cette semaine. Voilà, Louis Boyard, vous l'avez dit, c'est un jeune camarade, il a 21 ans.
Mais il est élu de la République maintenant, faut peut-être lui rappeler.
Mais bien sûr, mais après il a le droit de considérer qu'il n'a pas envie de se donner à voir avec un député d'extrême droite. Il en a le droit, ça se respecte. Et puis vous savez, il y a des gens qui sont spécialement marqués parce que ça représente l'extrême droite, parce que c'est que son histoire, parce qu'elle incarne encore aujourd'hui. Il faut le rappeler, même si les députés d'extrême droite ont envie de cette respectabilité, veulent rassurer Emmanuel Macron dans la période, eh bien voilà, nous n'oublions pas qui ils sont politiquement. Et je crois que le discours du doyen d'âge a fait froid dans le dos. Plus d'un de nos jeunes camarades notamment.
Mais en attendant, il y a urgence sur le pouvoir d'achat avec ce projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine. On connaît déjà quelques mesures. La remise carburant jusqu'à fin août, le bouclier tarifaire sur l'énergie, plus 4% sur les pensions retraite et le RSA notamment. Les salaires des fonctionnaires qui va être revalorisé. Il y a des choses finalement dedans que vous demandiez.
En fait, le principal souci, c'est que le gouvernement n'a pas l'intention de s'attaquer à la hausse des prix, à l'inflation, à la source. C'est-à-dire qu'il s'en accommode. Pourquoi s'en accommode-t-il ?
Il va proposer un chèque alimentaire.
Bah voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, bon voilà, il y a la hausse des prix, c'est inéluctable, et donc on va vous distribuer quelques miettes. Mais la vérité, c'est que cette inflation, cette hausse des prix, elle est d'abord le fait d'une spéculation, et ce qui enfle le plus, davantage encore que les prix, ce sont les profits. Et c'est important de le dire, parce que pour ne citer que cet exemple, à l'heure où beaucoup de vos auditeurs payent plus de 2 euros le prix du carburant à la pompe et doivent débourser jusqu'à plus de 100 euros pour faire un plein et donc arbitrer entre des dépenses du quotidien. Pendant ce temps-là, vous avez Total, le fournisseur, qui vient de réaliser rien qu'au premier trimestre 2022 5 milliards de bénéfices et qui l'an dernier a réalisé le bénéfice record de toute l'histoire de l'industrie de ce pays. Donc il faut rappeler les choses, c'est qu'il y a d'abord et avant tout une inflation des profits et c'est cela qu'il faut mettre à cela qu'il faut mettre fin. Et quand nous proposons par exemple le blocage des prix, eh bien c'est pour en quelque sorte dire c'est à la rente privée de prendre sa responsabilité et de prendre sa part, et ça n'est pas à l'État de compenser par, en plus vous pouvez vous en accorder, ce sont des chèques toujours insuffisants, ce sont des hausses qui sont inférieures à l'inflation, tout ça n'est pas sérieux. Ça peut pas être d'un côté la foire aux dividendes, le casino pour certains, et puis quelques miettes pour les autres. Voilà, cela n'est pas acceptable, et nous allons faire des propositions, puisque dès la semaine prochaine, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale déposera une loi face à l'urgence sociale, avec notamment la hausse du SMIC à 1 500 euros, la garantie dignité à 1 063 euros, et par exemple l'encadrement des loyers ou la gratuité des premières quantités d'énergie et le blocage des prix. Il faut mettre le paquet là-dessus, les gens sont vraiment pris à la gorge.
Et avancer au plus vite, parce que derrière il y a les Français, bien évidemment. Le député NUPS, la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, ce matin sur Europe 1. Merci à vous, excellent samedi. Dans un instant, vous retrouvez Isabelle Moreau.
Europe 1.
Se faire plaisir toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le lot de 3 avocats prêts à déguster est à seulement 2 euros. À ce prix-là, sur une tartine de pain frais avec un peu de feta et du citron ou en guacamole pour vos apéritifs d'été, eh oh, qu'est-ce que j'entends ? On se régale ? Auchan, avec plaisir. 2 euros, le lot de 3 avocats, 79 centimes, vendu seul. Catégorie 1, variété As, origine Pérou, Afrique du Sud ou Kenya. Valable dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Très exactement. Merci à vous de nous rejoindre dans la matinale week-end avec Face à Bigot. Rebonjour Guillaume Bigot.
Rebonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Et face à vous ce matin, Guillaume Perrault. Bienvenue à vous Guillaume.
Bonjour Isabelle.
Rédacteur en chef de Figaro Vox, une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 2 juillet. C'est l'approche des vacances et c'est toujours la galère, la pagaille même parfois dans les aéroports, notamment à Roissy ce week-end. Un vol sur 5 annulé aujourd'hui car la grève se poursuit. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, ça avait été annoncé, ces perturbations sur l'ensemble du trafic aérien dès le début du mois de juin, mais ce qu'on constate, eh bien, c'est que sur place, c'est compliqué pour les voyageurs. C'est aussi une situation qui est évidemment pénible pour les employés des aéroports de Paris, quels qu'ils soient, parce que différents secteurs d'activité sont touchés. Quelle est votre analyse, Guillaume Bigot ? Est-ce que ce que l'on vit en ce moment dans les aéroports, on sait que c'est normal que les grèves arrivent au moment où ça gêne le plus, finalement, puisque c'est là où il y a un rapport de force, mais est-ce que c'est annonciateur de temps très difficiles, d'une crise sociale profonde, avec des mouvements sociaux à venir dans les semaines qui viennent et peut-être les mois qui viennent ?
Ça peut être totalement interprété comme un signe avant-coureur de ce qui va arriver à la rentrée. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de salariés mal payés, c'est que les salaires sont relativement bas en France, en tout cas les salaires nets, avec des salaires qui ont été parfois bloqués pendant des années. C'est le cas à la SNCF, 8 ans sans augmentation. Je pense que ces gens qui travaillent à l'aéroport de Paris ne doivent pas avoir des salaires mirobolants. Et là, il y a une variable qui bouge. Cette variable, c'est la facture énergétique, c'est la facture alimentaire, et encore la facture alimentaire, le pire sans doute reste à venir. Donc il suffit, dans une situation de juste équilibre comme ça, de modifier quelque chose pour qu'à un moment, ça devienne une nécessité. Donc je ne suis pas certain que ce soit une grève de pur chantage, même si toute grève est un chantage, et ce chantage est exercé sur ceux qui partent en vacances est particulièrement odieux, parce qu'ils sont... Voilà, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et même si c'est un droit constitutionnel pour ceux qui veulent partir en vacances, c'est assez inacceptable. Donc le premier point, c'est ça, c'est qu'est-ce qui la déclenche ? Et donc les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets à la rentrée, parce qu'on va sans doute avoir toute une catégorie de travailleurs juste pauvres, en dessous de la classe moyenne, qui arrivent à payer leurs factures avec ce qu'ils gagnent, et l'inflation dite exogène, arrivée de l'extérieur, déséquilibre totalement leur situation. Et donc là, ils n'auront plus tellement d'autres solutions que d'établir un rapport de force. Deuxième commentaire, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus grave finalement qu'une simple lutte des classes classique, c'est-à-dire les salariés contre l'actionnariat, les salariés contre l'employeur. Ça, c'est quelque chose de banal, de classique, qu'on tirait du XXe siècle. Non, on a quelque chose maintenant comme une espèce de monde, non pas du bien commun, mais ce que j'appellerais du rien commun. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où d'abord tout peut s'enflammer assez rapidement, les individus sont à cran, chacun défend son précaré. Moi, je dois partir en vacances, moi, j'avais pris mes billets à l'avance,
je défends mon salaire.
Complètement du fait que vous ayez un droit de grève. Et c'est là où c'est plus gênant, c'est que ça reflète aussi une part d'archipélisation. Guillaume Perrault a sans doute connu, comme moi, puisque je crois qu'on était étudiants quasiment à la même époque, cette idée que pendant les grandes grèves des années 90, certains disaient, et ce n'était pas complètement inaudible, que les gens, notamment du service public, qui faisaient grève à ce moment-là, il y avait une sorte de grève par procuration. C'est-à-dire que des Français, des classes moyennes, pas très favorisées, disaient « Bon, écoutez, c'est vrai que ça me gêne, c'est vrai que je vais à mon boulot à pied, j'en ai assez, ça me casse les pieds, mais grosso modo, je comprends qu'ils fassent grève, je me solidarise de leur combat, et d'une certaine façon, moi, je suis dans le privé, je ne peux pas faire grève, sinon je vais me faire virer, mais eux, dans le service public, ils peuvent le faire, et finalement, une grève par procuration. On n'en est plus là du tout, me semble-t-il. L'électricité dans l'air est vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se disent pas « ils font grève pour nous ». Les gens disent « ils défendent leur beefsteak ». Nous aussi, on va défendre notre beefsteak. Chacun va défendre son beefsteak et on en arrive à la fameuse archipélisation de la France.
Donc ce que vous redoutez, c'est pas forcément une convergence des luttes, mais c'est plutôt Français contre Français.
Une fragmentation des luttes.
Une
exactement.
Fragmentation des
ouais,
luttes.
Oui, une explosion des luttes, une fragmentation des luttes.
Guillaume Perrault.
J'ai une pensée, bien sûr, pour les voyageurs, les vacanciers qui, après une année pénible, espéraient pouvoir après avoir payé leur billet, partir en vacances. Et effectivement, il y a un élément de rapport de force dans chaque grève. Je constate que les syndicats ont choisi le moment où ils avaient une capacité de nuisance maximale. Bon. Et je constate aussi que c'est tout à fait légal. Ils ont déposé des préavis, très bien. Mais ça pose quand même une question de principe qui a une conception extrêmement individualiste du droit de grève qui a toujours existé en France. Dans les années 90, je connais des gens qui n'ont jamais adhéré à la théorie selon laquelle les secteurs protégés faisaient une grève à laquelle adhéraient les gens exposés. Il y a beaucoup de gens qui étaient fulminés de rage face à cette théorie qu'on leur imposait sans leur demander leur avis. Je me souviens parfaitement de cet état d'esprit pendant les grèves de l'automne 1995 contre le plan Juppé.
Mais peut-être n'étions pas nous du même côté des barricades.
C'est possible.
Mais
c'est possible.
De fait, reconnaissez que ça existait, cet état d'esprit.
Je reconnais que ce discours public existait. Je ne suis pas sûr que cet état d'esprit existait. Ce qui existe, c'est un embarras chez les Français, même ceux qui sont victimes d'une grève. Il y a eu toujours une gêne à paraître être du côté du patron. Donc, si vous étiez vacancier il y a 25 ans, pénalisé par cette situation, si on vous tendait le micro, vous commenciez toujours par dire « la grève est un droit », mais vous étiez extrêmement prudent. Et aujourd'hui, en effet, l'atmosphère s'est durcie, les gens sont de plus en plus énervés, et ils disent « moi, monsieur, je suis mis dans la mouise, pour rester poli, à cause de votre action, et je n'ai pas moins de droits que vous ». Voilà, ça, c'est une remarque. Le climat s'est en effet durci. Cela dit…
Mais c'est la société des individus.
Attendez.
Alors, justement,
dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, il faut aussi dire que ce n'est pas une exception française, ce qui se passe dans les aéroports. Ce n'est pas une situation purement hexagonale. Il y a des mouvements de grève analogues à Londres, à Heathrow. Donc, ça, c'est massif. Il y en a eu en Espagne. Il y en a eu dans les aéroports allemands. Pourquoi ? Parce que le secteur aérien a évidemment été très durement touché par le Covid et que maintenant, ça redémarre. Et que les salariés qui travaillent dans ces secteurs estiment être dans une situation de sous-effectif chronique et soumis à des cadences infernales. Ça peut en effet être les prémices de quelque chose qui va se généraliser à l'automne. Pourquoi ? Le fait majeur, à mon avis, c'est la situation du marché du travail. Vous avez beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter des salariés peu payés. Donc ceux-ci sont en position de force pour aller de là où ils trouvent mieux. C'est parfaitement naturel. Pour une fois que le rapport de force se fait à leur avantage, on ne va quand même pas les critiquer. Mais du coup, les employeurs sont dans une situation très difficile dans ces secteurs. Donc, il n'y a pas que l'inflation, même si c'est évidemment une cause cruciale de ces mouvements sociaux. Il y a aussi la situation sur le marché du travail.
Guillaume Bigot, ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre, d'ailleurs, c'est cette notion d'individu, d'individualisation de la société. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, le sujet principal, qu'il n'y a plus de cap commun ?
D'abord, dans les jeunes générations sont issues de l'univers mental ou psychologique de...
Mais 68 ?
Non, je pense que c'est bien après ça, c'est génération Y et suivante. C'est-à-dire que finalement, nous appartenons peut-être à la dernière génération qui a cru au collectif, à l'intérêt général. Quand je dis qui a cru, je pense qu'il faut toujours y croire. Mais enfin, que ça se déploie notamment dans l'entreprise et que ça se déploie notamment, que ça corresponde à une réalité, qu'on ait affaire à des interlocuteurs, disons des patrons, des dirigeants, etc., qui aient ça dans la tête et qui utilisent ça comme boussole pour gouverner. On est peut-être cette dernière génération. Et il faut remarquer, c'est pas un jugement de valeur, que la génération Y, les plus jeunes, sont issus d'un univers... où la relation, que ce soit une relation amoureuse, d'ailleurs les enfants du divorce, ou que ce soit une relation de travail CDD, du temps partiel, de faire des auto-entreprises, voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Le capital, c'est devenu individualiste, donc le salarié, lui aussi, est devenu individualiste. Ça, c'est un phénomène très important. Mais en dehors de ça, je pense qu'il n'y a plus... Oui, on fait grève pour soi, on ne fait plus grève pour le collectif, on ne fait plus grève parce qu'on a un horizon de transformation de la société. Pas du tout, on essaye de chercher à défendre son beefsteak, de la même façon que va le faire l'actionnaire, de la même façon que vont le faire les gens qui partent en vacances. Donc on est vraiment dans la société des individus, c'est ça qui est un peu plus inquiétant. Mais sinon, il me semble que ce qui est en train de se jouer là sous nos yeux, c'est qu'il y a quelque chose de... Si vous voulez, ça va être très difficile de trouver des terrains d'accord dans un univers comme ça où il y a plus de bien commun. Finalement, qu'est-ce qui va nous rassembler ? On a des intérêts qui deviennent vraiment fortement divergents.
Et d'autant plus qu'il y a l'inflation dont on va en parler dans un instant. Donc vraiment, tout le contexte est explosif. On en parle juste après les titres de l'actualité. 8h30, Elisa Lukaski.
Europe 1.
29e jour de guerre et les Russes qui continuent leur progression dans le Donbass. L'Institut américain pour l'étude de la guerre évoque des gains marginaux des Russes à l'est de la ville de Bakhmout, proche de Donetsk, ville qui a été bombardée hier, vous le voyez. Les opérations russes se poursuivent aussi vers Sloviansk, près de la frontière entre les régions de Kharkiv et de Donetsk. Il se l'était fait voler il y a 46 ans. Un rocker canadien a retrouvé sa précieuse guitare au Japon. Randy Bachman, auteur et musicien avec son groupe The Guess Who du tube American Woman, a fait le déplacement jusqu'à Tokyo pour récupérer son instrument fétiche qui lui avait été dérobé pendant une tournée. La star, aujourd'hui âgée de 78 ans, avait acheté ce modèle à l'âge de 19 ans. Et puis le départ de Sampaoli au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'Argentin aurait décidé de quitter le club, notamment faute de garantie sur le mercato estival. Fin de la collaboration entre le club et l'entraîneur 18 mois après son arrivée. Les rumeurs sur le nom de son successeur commencent avec, pour les Marseillais, un rêve qui porterait le nom de Zinedine Zidane.
Et pourquoi pas. Merci Elisa. Je voudrais que vous poursuiviez votre idée, Guillaume Bigot. Vous parliez d'individualisation, mais il y a un rapport au travail aussi qui a profondément changé finalement.
C'est le même mécanisme, simplement de manière assez étonnante. La séquence Covid a accéléré ça. Aux États-Unis, ils parlent de Great Dismissal, la grande démission. 38 millions de salariés qui n'ont pas nécessairement les moyens de vivre d'ailleurs en dehors du travail ont pris le risque énorme de quitter leur poste de travail. Et on voit la même chose en France. C'est ce à quoi faisait allusion Guillaume Perrot à juste titre. C'est-à-dire qu'il y a des tas de secteurs qui peinent à recruter. Et il y a quelque chose qui s'est distendu. Il y a une sorte d'élastique qui a craqué, qui reliait l'individu à la dernière forme de collectif qui était l'entreprise. Alors, pas caricaturé. Tout de même, des gens qui ont envie de travailler, les entreprises fonctionnent encore. Mais le lien collectif, le rapport entre l'individu et les groupes, s'est distendu un peu partout.
On en vient à ce nouveau record de l'inflation en Europe au mois de juin, 8,6% en un an, énergie, alimentation, les prix s'envolent. Elisa Lukaski, quels sont les chiffres ?
Eh bien justement, vous l'avez dit, ce chiffre record de 8,9% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis le début de la publication des indicateurs en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France, elle est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus bas de la zone euro, derrière Malte, et c'est 6,1%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%, mais certains pays sont touchés de plein fouet, et notamment ceux qui sont frontaliers avec la Russie. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont une inflation autour des 20%, avec un record à 22% pour l'Estonie. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, il y a évidemment en premier lieu l'énergie, gaz, pétrole, électricité, plus 41,9% sur un an en juin. L'alimentation aussi connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an. Viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque Centrale Européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
Merci Elisa. Guillaume Bigot, des ménages qui se serrent la ceinture, c'est le début d'une spirale infernale pour toute l'économie ?
Oui, surtout ce qu'il y a d'assez rageant de cette situation, et on le voit bien à travers le différentiel d'inflation entre la France et les autres pays, c'est une inflation importée dont la cause principale, non exclusive, mais parce que ça avait démarré un peu avec la reprise, mais pour le coup il faut bien comprendre que cette inflation due à la reprise n'était pas forcément une inflation malsaine, parce que c'était une inflation qui était due à une forte activité et l'attente d'une forte activité. Il y avait un peu un phénomène de file d'attente, si vous voulez, pour accéder à des biens qui mettaient un peu plus de temps à être reproduits en Chine, pour accéder, disons, à des... Pour pouvoir bénéficier d'un accélérateur de croissance. Voilà, ça augmentait un peu les prix, notamment parce que ça mettait du temps en approvisionnement. Mais grosso modo, c'était une inflation saine. Là, l'inflation qui est due indirectement aux sanctions, les sanctions qu'on a prises ont des effets en cascade, c'est une inflation qui est complètement importée. Et cette inflation-là, elle est extrêmement, évidemment qu'elle est extrêmement pénalisante, elle est extrêmement dangereuse, elle va juste rogner. Pourquoi elle est rageante ? Mais parce qu'en fait, cette inflation par l'énergie, elle aurait pu largement être évitée. On le voit, notre différentiel d'inflation est important. D'abord, parce qu'on achète plus de gaz à l'Algérie, on achète du gaz à l'Algérie, les autres n'en achètent pas ou peu, par l'Espagne, me semble-t-il. Et deuxièmement, on a un parc nucléaire qui permet, alors même si là, les centrales sont largement, pas suffisamment en marche, puisque beaucoup sont en maintenance à l'heure où on parle, on a de l'énergie nucléaire. Si en fait, cette politique d'énergie nucléaire avait été poussée jusqu'à son terme, si les gens qui nous gouvernent n'avaient pas fait des shadows dans les 20-30 dernières années, s'ils avaient réparé le parc nucléaire, s'ils avaient investi dans le parc nucléaire, pardon du jeu de mots, mais on serait les rois du pétrole. C'est-à-dire qu'on aurait très peu d'inflation importée et le différentiel avec les autres pays serait considérable. On pourrait même aider au plan énergétique nos voisins. Je vous rappelle que dans les années 90, on n'importait pas d'énergie, on exportait de l'énergie et notamment de l'électricité à l'Allemagne. Toute l'Europe, on aurait vraiment besoin maintenant. Et c'est totalement fou. Et évidemment, c'est toujours très problématique de demander aux gens qui sont responsables des problèmes de régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés.
Guillaume Perrault, est-ce qu'on est sur le point d'assister à un renversement de notre économie, pour ne pas dire un effondrement ?
Un effondrement, je n'irai pas jusque-là. On redécouvre que l'inflation, c'est un appauvrissement. C'est toujours un appauvrissement, sauf période de très forte croissance, comme on l'a connu dans les années 60. C'était un tout autre contexte économique. Un autre siècle, oui. Et là, en effet, on pouvait accepter une inflation élevée. Elle a été à deux chiffres sans que ce soit nécessairement une catastrophe à certaines époques. On n'est absolument plus dans ce contexte. Or, c'est quand même assez paradoxal, parce qu'on reproche aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne de ne pas avoir assez fait pour maintenir une inflation modeste. Mais je rappelle que pendant des décennies, on a adressé à la BCE le reproche inverse. On lui a reproché en France d'être obsédé par la stabilité des prix au préjudice de la croissance, au préjudice de l'emploi. Et maintenant, on lui fait le reproche exactement contraire. C'est quand même paradoxal. Il y a 30 ans, les Français ont voté pour le traité de Maastricht. Ça va être en septembre, ça va faire 30 ans. J'ai du mal à l'accepter, mais ça va faire 30 ans. Et depuis, quel est le choix qu'on a fait à ce moment-là ? C'est que la politique monétaire ne serait plus à la discrétion des gouvernements. C'est que les banques centrales allaient devenir indépendantes. C'est le modèle allemand, conformément à une théorie économique qu'on appelle le monétarisme, pour assurer d'abord la stabilité des prix. Bien, ce choix qui a été fait, et qui était en effet discutable, a été passionnément critiqué en France. Ce qui se passe aujourd'hui me paraît plutôt plaider pour la justesse de ce choix, c'est-à-dire la justesse de l'objectif prioritaire de la stabilité des prix, puisque maintenant qu'on ne l'a plus, on se retrouve extrêmement démunis et dans une situation très grave.
Guillaume, une réaction à ce que dit Guillaume Perrault ?
Oui, peut-être terminer sur le point de la création monétaire, de la relance. D'abord, il faut dire que ce qu'on nous a vendu comme étant l'euro devait être une monnaie de réserve mondiale avec une théorie comptable, c'est-à-dire que finalement la zone euro avait plus d'actifs et moins de passifs que grosso modo la zone dollar et notamment les États-Unis. Bon, seulement on a négligé le fait que les États-Unis étaient surarmés, étaient une puissance militaire et un État, et donc avaient une signature, une crédibilité, et que personne ne demanderait aux États-Unis de rembourser leurs dettes. Donc on a créé l'euro en disant, ben voilà, ça va devenir une monnaie de réserve mondiale, on aura les mêmes privilèges que le dollar, et on s'est rendu compte, c'était ça l'argument de l'euro, on l'a oublié aujourd'hui, hein, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc on est devenu la variable d'ajustement du dollar. Une fois que ceci a été expliqué, on se dit que la Banque centrale américaine, ce qu'elle fait, on le subit. Et nous, on est obligé de suivre ce que fait la Banque centrale américaine. Qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale américaine ? Effectivement, de l'hélicoptère monnaie, fabriquer de la monnaie, etc. Nous, ce qu'on a appris dans le manuel d'histoire, qu'on a fait un peu de manuel d'économie, pardon, un peu de macroéconomie, on s'est toujours dit, c'est Keynes, quoi. En fait, quand on fait de la monnaie, on essaye de relancer l'économie quand elle est à plat. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas créé de la monnaie pour que ça aille dans la poche des salariés, qu'ils consomment et qu'ils déclenchent le moteur de la croissance. Ça, c'eût été vertueux. On ne l'a jamais testé. On a un petit peu testé avec le quoi qu'il en coûte et ça avait commencé à porter ses fruits. Pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de 2008, les gens qui ont déclenché une inflation par spéculation et essentiellement par les marchés financiers, on a pris notre argent et on est allé sauver les spéculateurs. On a sauvé les banques qui avaient brûlé, en fait, un argent fou dans de la spéculation.
On ne pouvait pas les laisser tomber. C'est l'ensemble de l'économie qui était menacée.
Savez, c'est ce qu'a fait la Finlande. Ça s'est très, très bien passé. Les salariés et les citoyens ont repris leurs billes. Mais là, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Too big to fail, je sais qu'il y avait des risques systémiques, c'est en fait, vous avez raison Guillaume, plus complexe que ça, et ça pourrait effectivement se discuter de savoir si ce grand mur de l'argent spéculatif aurait pu nous tomber dessus. Mais j'insiste sur un point, c'est que cette relance, elle ne s'est faite qu'au profit des marchés financiers. C'est une relance inédite dans l'histoire, c'est une relance par et pour les riches, non pas par, non, par les classes moyennes, par tout le monde, par les peuples, au service mais simplement des spéculateurs et des riches. Ça, c'est très étonnant. Et donc, on n'a plus de marge de manœuvre maintenant où il faudrait effectivement soutenir l'économie. Et ça, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, on est tellement endetté que ça devient effectivement plus crédible.
La politique au sens propre maintenant avec Emmanuel Macron, qui revient d'une longue séquence à l'international, on a vu notamment au sommet de l'OTAN, il revient aux affaires courantes, il y a urgence puisqu'on est dans un contexte de flottement depuis plusieurs semaines et que ça ne peut pas vraiment durer. Il a rencontré hier Elisabeth Borne en fin d'après-midi avec deux dossiers brûlants, le remaniement du gouvernement et puis le discours, le fameux discours de politique générale avec un vote de confiance ou non. Alors je vais vous montrer ce sondage Odoxa pour Le Figaro, Guillaume Bigot et Guillaume Perrault. Un Français sur deux, 51% très précisément, souhaite qu'Elisabeth Borne reste première ministre. Ça, c'est 9 points de plus que la semaine dernière. Mais, une nette majorité, 66%, donc 2 Français sur 3, souhaitent qu'elle se soumette à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale. Guillaume Bigot, elle s'apprête à vivre son premier gros test politique, finalement, Elisabeth Borne. Rien ne l'oblige à se soumettre à ce vote de confiance, mais est-ce qu'elle n'est pas obligée de le faire malgré tout ? Est-ce qu'elle peut l'éviter ?
C'est intéressant ce qui se passe parce que on voit bien que les Français sont un très vieux peuple politique, nous accusent d'être assez incohérents, mais en réalité, ils ont voulu à la fois reconduire M. Macron et en même temps, parce que aussi les Français sont capables de faire du en même temps, ne pas lui donner les moyens de sa politique. Et là, ça a l'air d'être contradictoire. Ils veulent en même temps garder Mme Borne, mais en même temps qu'elle se soumette à un vote qui est un peu du saut à l'élastique.
À qui tout double, ouais.
Saut à l'élastique sans élastique, on va dire ça comme ça. Enfin, grosso modo, d'ailleurs, le président de la République la pousse un peu à la faute. Il lui dit, mais ça me fait comme dans. On prend une photo, vous savez, reculer au bord du ravin. Reculer, j'ai pris la photo. Donc il lui dit, mais il faut prendre votre risque. C'est fantastique, allez-y, c'est très important, vous en sortirez plus forte, etc. Bon, il y a toute une analyse à faire là-dessus pour savoir si c'est finalement pas du machiavélisme tout de même, ce serait pas un moyen de se séparer, non pas lui, parce qu'il ne peut pas le faire politiquement, mais de pousser l'Assemblée à se débarrasser d'une certaine façon d'une Madame Borne, qui, je rappelle, est un deuxième, voire un troisième choix, un Premier ministre extrêmement technocratique. Il y a tout un débat là-dessus. Je ne sais pas ce que Guillaume Perrault en pense, mais c'est important de...
Il va nous le dire dans un
instant. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs clés de lecture de ce qui se produit. Les Français, effectivement, ce sont vraiment les Gaulois sinueux que racontait... César dans la guerre des Gaules. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent un remaniement plus large, à 56%. Ils veulent maintenir Elisabeth Borne, vous l'avez dit, ils veulent la soumettre à un vote de confiance, mais surtout, ils ne croient pas qu'Emmanuel Macron en fera quoi que ce soit. À 56%, ils disent Emmanuel Macron ne va pas ni changer Madame Borne, ni élargir. Vous voyez donc, on est dans une sorte de... Les Français remontent au vent, en quelque sorte.
Et pourtant, Guillaume Perrault, il y a urgence pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, notamment l'inflation et la crise que l'on traverse.
Alors, il y a urgence à prendre des décisions et à se sentir gouverné.
Et ça, donc, c'est à sûr. Avoir des gens pour gouverner.
Oui, oui. Mais en même temps, on est en droit français. Il faut bien voir que ce n'est pas au Premier ministre... Ce n'est pas le Premier ministre qui doit dire à l'Assemblée « Est-ce que vous m'aimez ?» sont les députés qui doivent dire au Premier ministre « on ne vous aime pas », si jamais ils ne l'aiment pas.
C'est
un peu bizarre, mais c'est ça la Constitution française.
Absolument.
C'est-à-dire que le chef du gouvernement, le Premier ministre, n'a pas l'obligation de demander ce vote de confiance, mais les députés, s'ils ne veulent plus l'avoir, peuvent déposer une motion de censure, et il faut qu'il y ait la majorité absolue des suffrages exprimés pour renverser le gouvernement.
Mais
ce
ça,
qui
c'est
impliquerait...
a priori exclu, on est bien d'accord.
Là, je pense que c'est exclu, oui. Parce que je vois mal, alors qu'elle n'a encore rien fait, les différentes oppositions se coaliser et voter la même motion de censure. Ça, je crois que ce n'est pas possible. Je doute qu'Elisabeth Borne demande la confiance. Rocard ne l'a pas fait, Cresson ne l'a pas fait, Bérégovoy ne l'a pas fait. Et avant eux, en 76, Raymond Barre, qui avait pourtant une majorité RPR-UDF devant lui, RPR et divers droites devant lui, pardon, eh ben, ne l'a pas fait non plus.
Mesmer, coup de vue.
Et alors, ce qui est très intéressant, si on remonte un peu dans l'histoire, c'est que sous Pompidou, Chaban Delmas, qui se sentait menacé parce que Pompidou ne le voulait plus, s'est tourné vers les députés gaullistes et leur a dit « Est-ce que vous m'aimez ?» Il a eu un vote de confiance. Trois semaines plus tard,
et
il était viré. Trois semaines plus tard, il était viré par Pompidou. Et Mesmer, qui lui a succédé, n'a pas demandé un vote de confiance aux députés. Le message, c'était quoi? C'est que le Premier ministre, il procède du président et pas de l'Assemblée. Et si l'Assemblée n'est pas d'accord... Et là, il lui appartient de le faire savoir par une motion de censure, mais ça marche dans ce sens-là, et non l'inverse. Alors, c'est un exercice de funambule très délicat qu'Elisabeth Borne va devoir faire, qu'elle se soumette ou non à un vote de confiance, parce que le fond de l'affaire, ce n'est pas vraiment le vote de confiance, c'est est-ce qu'il trouve une majorité, enfin des alliés pour gouverner.
Ça sera le résultat des consultations qu'elle a faites pendant 15 jours, on verra aussi ce que ça a donné.
Alors, la réponse est non. Pour le moment, il n'y a pas d'alliés. Donc, leur seul espoir, c'est des tractations laborieuses au cas par cas pour espérer des abstentions bienveillantes pour faire passer leur projet de loi, un coup avec la gauche. Alors, on peut assister à des choses un peu baroques. En gros, une fois, ça serait avec la droite pour avoir une politique un peu moins déraisonnable face à la dette publique. Et puis, à la gauche, on va donner l'euthanasie, par exemple. Vous voyez, donc, d'un côté, un geste en matière de rigueur budgétaire. De l'autre, un geste les questions sociétales. Voilà. Ça peut se produire. Mais est-ce que cet exercice de funambuliste peut continuer et surtout, est-ce que les Français peuvent avoir le sentiment d'avoir une ligne cohérente et un vrai gouvernement? Avec cette situation, c'est quand même très, très, très problématique.
En tout cas, ils l'attendent, parce qu'il y a notamment cette fameuse loi sur le pouvoir d'achat qu'on attend impatiemment. Donc, on a besoin de savoir dans quel sens on va, qui nous emmène dans ce sens-là, Guillaume Bigot. Et avant ce discours de politique générale, c'est intéressant aussi de connaître le casting, avec qui on part pour la bataille, finalement. Donc, cette question du remaniement.
Mais la réalité politique, elle est que les Français ont voulu Emmanuel Macron parce qu'ils ont estimé que c'était... C'est-à-dire, pour retourner une formule, la formule bien connue que Chirac utilisait pour Juppé, c'est meilleur d'entre nous, parce que les Français ont estimé que c'était le moins mauvais d'entre les candidats. Donc ils pensent que la personnalité, la personne du chef de l'État, son habileté, son expérience maintenant au pouvoir est telle que ça les rassure d'avoir quelqu'un qu'ils connaissent avec ses défauts et ses qualités. Et c'est dans le casting, c'était pour eux le moins mauvais. Mais ils ne veulent pas de sa politique. C'est ça le message, en fait. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président de la République va entendre ce message, va pouvoir changer de cap politique? Vu la configuration de l'Assemblée, peut-être qu'il y songe. Il est assez intelligent, il aurait pu y songer de changer de stratégie. Les mauvaises langues diraient pour avoir enfin une stratégie ou enfin une vision. Parce qu'on peut la décrypter, cette vision. Depuis 40 ans, que se passe-t-il? Toujours la même chose, plus de libéralisme économique, plus de mondialisation. En même temps, on garde les impôts. En même temps, on garde la protection sociale, ce qui fait qu'on a une protection sociale à la suédoise, on a des pauvres à l'américaine. Donc le tout, comme ça, n'est pas de très bonne facture. Et ça, cette ligne-là, elle continue. Et il se passait jusqu'à Emmanuel Macron l'idée qu'on allait quand même faire de la réforme parce qu'on était des technos, on ne savait faire que ça, mais on allait faire croire aux gens qu'on allait faire autre chose. Ouais, c'est la finance, c'est la fracture sociale, c'est le veto, etc. Et M. Macron, lui, il a fait croire qu'il allait réellement faire les réformes. Mais en fait, il ne peut pas davantage les faire que les autres. En fait, c'est ça.
Et
pas
aussi, plus aujourd'hui pour le deuxième quinquennat que lors du précédent.
Voilà. Il fait croire qu'il va faire les réformes tout en faisant comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire en essayant de ménager la chèvre et le chou, et en ménageant, parce que c'est quand même la responsabilité première d'un chef de l'État, en ménageant un peu... l'ordre public, on va dire, ou le fait que le pays reste gouvernable. Moi, je pense qu'à ce stade, il y a deux hypothèses. Soit on considère que M. Macron ne sait rien finalement ne sait rien faire d'autre que d'une espèce de en même temps technocratique, et qu'il va miser sur Mme Borne pour faire ça, parce qu'il se dit que son caractère technocratique, son manque, on va dire, de charisme politique, son manque d'ancrage politique, fait que c'est un peu une page blanche. Et donc elle pourra aller négocier tantôt à droite, tantôt à gauche, et que comme elle n'est pas très marquée, si vous voulez, comme elle n'est pas très typée, ça pourra passer. En plus, ça sera technique, elle le fera techniquement avec des arguments techniques. Peut-être que c'est l'hypothèse que fait le chef de l'État. Une autre hypothèse plus machiavélique, ce serait, bon, allez, vas-y, recule un peu vers le ravin, qu'on prenne
c'est
photo.
La fameuse photo devant la falaise.
Prends ton risque, etc. Et là, il fera porter le chapeau au législatif, au pouvoir législatif, en leur disant, mais regardez, de toute façon, ça devient ingouvernable, et là peut-être qu'il y aura un remaniement un peu plus vaste, un peu plus puissant, avec cet espoir de trouver une majorité qui serait en grignotant sur quelques parties de gouvernement à droite, en grignotant sur quelques parties de gouvernement à gauche. Et ça, peut-être que Mme Borne, elle n'est pas taillée pour faire ça.
Réponse dans les semaines qui viennent. On avance avec la situation internationale, bien sûr. Cette question, est-ce qu'on est en train de revenir à une logique de guerre froide? L'OTAN décrit désormais la Russie comme une menace, alors que ça faisait quand même un moment que Moscou était plutôt considéré comme un partenaire, en tout cas jusqu'à cette guerre en Ukraine qui a tout changé. Et l'OTAN annonce un renforcement de son système de défense à l'est de l'Europe. On écoute son patron, Jens Stoltenberg.
Aujourd'hui, les dirigeants ont approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Il est publié au moment même où nous nous parlons. C'est le nouveau concept stratégique. L'actuel a été convenu en 2010 et c'est très différent de ce que nous avions convenu à l'époque. Il indique clairement que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité.
Guillaume Bigot, c'est, à défaut d'un retour de la guerre froide pure et dure, un climat très clair de guerre froide, alors qu'il y a une guerre chaude qui se déroule en ce moment précisément en Ukraine.
Je crois qu'on se rassure à bon compte, en parlant de guerre froide, parce que au moment de la guerre froide, la tension pouvait être en apparence beaucoup plus vive. Au moment de la guerre froide, énorme différence. Nous avions des blocs qui étaient aussi des blocs idéologiques qui se faisaient face. Là, on va dire, c'est quand même la démocratie libérale, l'occidentale, contre un modèle autoritaire. C'est pas faux, mais au fond, ce modèle autoritaire correspond à l'identité assez profonde de la Russie. Donc c'est quand même une opposition de nations, une opposition entre des nations de l'Ouest et des nations de l'Est. Au-delà, il y a la Chine, au-delà, il y a encore d'autres...
L'Inde, les pays d'Afrique...
D'autres pays du monde, exactement. Donc, je pense que c'est une opposition idéologique moins importante. Parce que finalement, cette opposition idéologique de la guerre froide, on avait bien compris que la guerre froide aussi, ça servait tout de même à l'Union soviétique et aux États-Unis à finalement élargir leur camp. Chacun avait ses pions, chacun avait ses camps. Il est arrivé au moins à deux reprises et probablement davantage que les Américains tuent des Russes par proxy, comme on dit, par combattants interposés. Ça s'est fait au Vietnam. Et les Américains se sont vengés en tuant des Russes par proxy interposé. C'est fait en Afghanistan. Ça se passait... Alors, même si l'Afghanistan est proche de la Russie, la charge émotionnelle symbolique pour les Russes de l'Afghanistan, l'Afghanistan, c'était très loin de la Russie, mentalement, psychologiquement, historiquement. Tandis que là, ça se passe en Ukraine. Ça se passe dans le prolongement des frontières de la Russie. Ça se passe dans le berceau de la Russie. Pour les Russes, on l'a déjà dit, c'est une guerre de sécession. C'est comme si le Texas ou la Californie voulaient partir, c'est inacceptable. Ils considèrent, eux, que depuis 1991, jusqu'au retour de Poutine aux affaires, enfin, l'arrivée de Poutine aux affaires en 2000, de 91 à 2000, il n'y avait plus d'État russe. L'Union soviétique s'était écroulée, l'État russe, sa signature, elle était très faible. Là, les Occidentaux ont abusé de la vulnérabilité de la Russie, c'est la lecture des Russes. Et de notre côté, évidemment, on se dit que si l'ordre international peut être remodelé par la force... Alors là, on ouvre une boîte de Pandore inacceptable. Donc, c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est beaucoup plus chaud et parce que la guerre par personne interposée peut déraper en une véritable guerre qui met aux prises les uns et les autres directement.
Pire que la guerre froide, c'est la perspective, Guillaume Perrault.
Oui, c'est une situation tragique parce qu'il n'y a aucune solution à court terme. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que tout ça se finisse par un champ de ruines avec deux belligérants qui s'épuisent mutuellement sans qu'aucun emporte clairement une décision sur l'autre. D'où, d'ailleurs, c'est à peu près l'analyse du secrétaire général de l'OTAN, puisqu'il a dit qu'on pouvait s'attendre à une guerre qui dure, je cite, « des années ». Oui. Des années. Et donc c'est quand même très inquiétant que ça soit désormais une hypothèse de travail pour l'OTAN. Alors nous avons d'un côté la victoire, la consécration d'une ligne dure avec cette nouvelle doctrine de l'OTAN, parce que les Pays-Baltes l'ont réclamé, parce que la Pologne l'a réclamé, parce que les Britanniques et les Américains sont d'accord et ils ont beaucoup d'arguments à faire valoir. Et de l'autre côté, il y a les États comme la France, l'Italie, l'Allemagne, plus s'attacher à une position, disons, d'équilibre et qui ont été obligés de se rallier parce qu'ils constatent qu'en face, il n'y a aucune volonté sincère de négocier de la part de Poutine pour le moment et que l'idée d'un compromis à l'occidental ne correspond pas à son état d'esprit à ce jour et qu'il a finalement un intérêt, lui aussi, à faire durer cette guerre. Donc, c'est une situation tragique.
Merci.
Dont les Ukrainiens sont les premières victimes, hélas.
La seule issue heureuse serait un changement de pouvoir en Russie.
Merci beaucoup Guillaume Perrault, merci à vous Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez Thierry Dagiral avec Frédéric Taddeï. Très bon samedi.
Merci Isabelle Moreau, on vous retrouve demain. On accueille Frédéric Taddeï, c'est arrivé cette semaine au programme Frédéric.
Au programme, vous avez remarqué que le paysage économique peut paraître assez sombre. Ouais. Alors j'ai invité Philippe Martin, il préside le conseil d'analyse économique qui conseille, c'est une instance indépendante, mais qui conseille le Premier ministre ou la Première ministre. Mmh. On va revenir également sur la décision de la Cour suprême, évidemment, mais avec le professeur de droit constitutionnel Frédéric Rouvillois, une analyse particulièrement originale. Et enfin, on terminera l'émission avec le baryton Florian Sempey.
A tout de suite, Frédéric Taddeï, dans un instant, sur Europe 1, toute l'info à 9h, les premiers vacanciers de juillet, reportage dans le sud-est de la France. Et puis, on va parler pouvoir d'achat et Tour de France, bien sûr. C'est à suivre sur Europe 1. A tout de suite.